Bienvenue si vous nous rejoignez maintenant, il est midi et demi sur France Culture. L'heure de retrouver Thomas Cluzel pour le journal. Bonjour.
Bonjour Olivia, bonjour à toutes et à tous. Pas de majorité nette à l'issue des élections législatives organisées hier en Israël, de sorte que les résultats officiels qui s'annoncent extrêmement serrés pointent déjà vers de difficiles pourparlers pour accoucher d'un nouveau gouvernement de coalition.
En Espagne, près de 5 mois après avoir remporté les élections législatives, le Premier ministre socialiste en exercice a dû renoncer à former un gouvernement.
Et voilà qui va obliger donc les électeurs à retourner aux urnes pour la 4e fois en 4 ans.
L'Italie reçoit aujourd'hui le président français Emmanuel Macron pour une visite éclair dont le but sera de relancer les relations entre les deux voisins.
Une nouvelle taxe carbone en France appliquée aux transports aériens mais aussi avec de vraies contreparties pour les ménages les plus modestes. Voilà la proposition formulée ce matin par la Cour des comptes. Enfin, dans une vingtaine de minutes, nous parlerons environnement et chercherons à savoir comment mieux protéger les océans. Et puis à 12h55, Olivia, ce sera la grande table des idées.
Alors nous aussi, on va parler quand même transition écologique et on va essayer de réévaluer nos besoins avec notre invité. Il est sociologue, il s'appelle Razmig Kecheyan et il a travaillé sur la question des besoins authentiques, essentiels et les besoins artificiels. Ah, mais comment les distinguer et qui pour les distinguer? Ce sera l'objet de notre conversation dans une vingtaine de minutes.
Merci et à tout à l'heure. Tout ça pour ça, après dépouillement de la quasi-totalité des votes aux législatives israéliennes, le Premier ministre Benjamin Netanyahu et son rival Benny Gantz sont à égalité. Leurs formations respectives obtiendraient chacune 32 sièges sur les 120 de la Knesset et surtout aucune ne parviendrait avec ses alliés respectifs à franchir le seuil des 61 députés pour obtenir une majorité en chambre. Dit autrement, ni Benjamin Netanyahu ni Benny Gantz seraient en mesure de former un gouvernement de coalition quand Israël se retrouve 5 mois plus tard, tout proche de la case départ. Frédéric Mettezo, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes en direct de Jérusalem. Alors comment éviter que ne se répète le scénario du printemps dernier? Tous les regards semblent à présent se tourner, Frédéric, du côté du parti nationaliste de l'ex-ministre, avec Avigdor Lieberman, crédité, lui, je crois, de 8 ou 9 sièges et qui pourrait donc faire pencher la balance.
Oui, Thomas, la formule a été répétée, rabâchée, mais il n'y a pas plus juste. Cet ancien collaborateur très proche de Netanyahou au parti Likoud, puis dans son cabinet avant de devenir son ministre, Lieberman est le faiseur de roi. Sa petite dizaine de sièges permettrait à l'un des deux blocs de basculer à 61 sièges, voire plus. Lieberman, le nationaliste né en URSS, qui a longtemps tenu un discours anti-arabe très agressif, très violent, eh bien, il a changé de tonalité depuis le scrutin d'avril. Il se pose en laïque intransigeant, et à l'entendre, lui et ses colistiers, les juifs orthodoxes seraient pour Israël une menace aussi grave que le Hamas. Ce discours a séduit ses électeurs traditionnels issus de la communauté russophone, mais aussi des libéraux comme ici à Tel Aviv, attachés à la laïcité et choqués par la pression religieuse. Lieberman souhaite un gouvernement d'union laïque avec le Likoud et Bleu Blanc, sans les partis religieux juifs et sans les partis arabes. Mathématiquement, ça passerait largement les 61, reste à savoir qui serait le premier ministre de cet attelage, Gantz, Netanyahou ou bien une autre personnalité du Likoud.
Alors, seule certitude aujourd'hui, Benjamin Netanyahou au pouvoir sans interruption depuis 10 ans avait joué son va-tout sur ce scrutin à quelques jours seulement, rappelons-le, de sa comparution pour des affaires de corruption. Et manifestement, Frédéric, pour une rare fois dans sa carrière politique, eh bien, il pourrait peut-être perdre la mise ou à tout le moins fait-il aujourd'hui du surplace.
Oui, ne pas avoir nettement gagné hier, c'est un peu avoir perdu. En avril dernier, faute de réunir une coalition, Bibi Netanyahou avait poussé la Knesset à se dissoudre. Et hier, à nouveau, il n'a pas gagné. Tout cela malgré une campagne hyperactive, hyper agressive contre la presse, contre les électeurs arabes et contre ceux qu'il appelle les gauchistes. Il s'est rendu à Sotchi voir Poutine. Trump lui a promis un traité de défense mutuelle. Il a hésité à lancer une opération à Gaza. Il a martelé nuit et jour que l'Iran était une menace. Enfin, il a promis d'annexer des pans entiers de la Cisjordanie. Une débauche de promesses et d'énergie pour finir à égalité. Pour l'instant, au Likoud, personne n'ose publiquement tourner la page Bibi. C'est pourtant aujourd'hui lui qui bloque le jeu. Hier, très sérieusement, un député Likoud me disait « Tiens, et pourquoi pas une troisième élection ?»
Merci Frédéric Mettezo en direct de Jérusalem. Si depuis sa prise de fonction, le locataire de la Maison-Blanche a toujours fait d'Israël son plus fidèle allié au Moyen-Orient, les Saoudiens n'en restent pas moins l'un de ses plus proches partenaires, du côté desquels il s'est notamment rangé dans son bras de fer avec l'Iran. Et c'est ainsi que Donald Trump a décidé de dépêcher son ministre des Affaires étrangères, Mike Pompeo, à Jeddah aujourd'hui pour discuter avec le prince héritier Mohamed Ben Salman de la réponse aux attaques contre les installations pétrolières du royaume. Toujours aux États-Unis, même si les certitudes des investisseurs pariant sur le niveau futur des taux de la Fed ont été ébranlés par ces frappes, lesquelles ont non seulement fait grimper les prix du pétrole, mais posent également donc la question d'éventuelles représailles. Il semble bien que la plupart d'entre eux restent toutefois persuadés que la Banque centrale américaine va bel et bien baisser ses taux aujourd'hui, notamment pour compenser les risques que font peser les tensions commerciales sur l'économie américaine. Hier, et pour la première fois depuis la crise financière, la Fed a d'ores et déjà injecté 53 milliards de dollars sur les marchés financiers pour maintenir son taux au jour le jour à son bas niveau. Une intervention technique qui devrait être suivie aujourd'hui d'une autre injection de quelque 75 milliards de liquidités. Les Espagnols vont devoir retourner aux urnes après que les partis politiques ont échoué à se mettre d'accord pour former un gouvernement. De nouvelles élections législatives anticipées seront organisées le 10 novembre prochain, soit les deuxièmes élections générales en seulement 7 mois et les quatrièmes en 4 ans, un cas sans précédent en Europe qui marque donc l'échec de longs mois d'élucubrations, de vraies fausses négociations et au final de vaines gesticulations. Depuis que le PSOE est arrivé en tête lors des dernières élections, c'était en avril, sans parvenir à dégager une majorité de gouvernement, le dirigeant socialiste Pedro Sanchez a déjà échoué à deux reprises dans ses tentatives pour obtenir la confiance du Parlement. Sauf qu'aucun parti ne voulant évidemment être sanctionné dans les urnes à l'automne prochain comme responsable de ce fiasco, eh bien toutes les formations politiques se rejettent désormais mutuellement la faute de la convocation de ces nouvelles élections. Quoi qu'il en soit, le pays n'a donc toujours pas trouvé la solution pour sortir de l'impasse. Une correspondance à Madrid signée Mathieu de Taillac.
En 2011, quand le mouvement des indignés occupait la Puerta del Sol, il se plaignait. La démocratie, disait-il, ce n'est pas voter seulement une fois tous les quatre ans. On ose dire que leur vœu a été exaucé, mais depuis 2015, les Espagnols sont convoqués à des élections législatives une fois tous les 11 mois en moyenne. Et cette instabilité coïncide avec la mort du bipartisme, de la domination sans partage de deux grands partis politiques, le Parti Socialiste, le PSOE à gauche, et le Parti Populaire, le PP, à droite. Depuis, Podemos occupe la gauche radicale, Ciudadanos a pris le centre-droit libéral, et Vox, l'extrême droite. La multiplication des partis a mis fin en majorité absolue des socialistes et des conservateurs. Il faut désormais former des coalitions, et les partis n'ont pas l'habitude, en tout cas pas au niveau national. Mariano Rajoy, déjà, avait dû se soumettre à un nouveau scrutin en 2016 pour que Ciudadanos se décide à le soutenir. Et cette fois, c'est la gauche, PSOE et Podemos, qui ne parvient pas à s'entendre, alors que les chiffres sont là, la majorité était à leur portée. La loi électorale, elle, n'a pas changé, une répartition des sièges proportionnelle corrigée par un système de panachage, mais les partis n'ont pas encore appris à négocier de manière efficace et sans drame. Les électeurs, eux, sont consternés par une telle paralysie.
Cette fois-ci, c'est officiel, le prochain président tunisien sera soit un professeur de droit conservateur à l'allure compassée, Kais Saied, soit le très libéral magnat des médias et publicitaire flamboyant actuellement en prison, Nabil Karoui. La date du second tour n'a pas encore été précisée par l'instance indépendante qui gère les élections. En Afghanistan, un nouvel attentat suicide a été perpétré ce matin dans un bâtiment officiel à Jalalabad. Hier, déjà, au moins 48 personnes avaient été tuées lors de deux attaques. La première visait un rassemblement électoral du président Ashraf Ghani. La seconde a déchiré le centre de la capitale, Kaboul. Deux attaques revendiquées par les talibans qui considèrent le scrutin présidentiel prévu le 28 septembre prochain comme illégitime. Et tandis que les attentats se multiplient en Afghanistan, voilà que la France s'apprête, elle, à expulser aujourd'hui dans son pays en guerre un ressortissant afghan détenu au centre de rétention administrative de Rennes. Et hasard du calendrier, il se trouve que c'est également aujourd'hui même que doit être examiné à l'Assemblée un projet de loi de ratification d'un accord entre Bruxelles et Kaboul. Ce texte, déjà adopté par le Sénat, prévoit notamment une coopération entre l'Union européenne et l'Afghanistan pour, je cite, « empêcher les flux migratoires irréguliers ». La question migratoire, justement, ce sera là l'un des principaux thèmes au menu des discussions prévues aujourd'hui entre Emmanuel Macron et Giuseppe Conte. Après 14 mois d'opposition sur les plans à la fois diplomatiques, économiques, industriels et culturels, le président français est attendu à Rome pour relancer donc des relations italo-françaises ébranlées par le précédent gouvernement populiste et eurosceptique. Reste que si la sortie définitive de l'exécutif du patron de la Ligue d'extrême droite, Matteo Salvini, ouvre en effet de nouveau la voie à une collaboration possible entre la France et l'Italie, le sujet sensible de l'immigration n'en reste pas moins une préoccupation centrale de la péninsule qui souhaite une meilleure répartition des migrants en Europe. En clair, Giuseppe Conte devrait proposer à son homologue français une rotation des ports pour l'accueil des migrants sauvés en Méditerranée par les ONG. Les précisions à Rome de Bruce de Galzin.
L'Italie souhaiterait ne pas être la seule à voir débarquer les réfugiés dans ses ports. Rome plaide pour une rotation des ports afin que la France, l'Espagne ou Malte accueillent aussi les navires des ONG. À Paris, on indique que la demande n'a pas été formulée et que pour des raisons juridiques et humanitaires, c'est le port le plus proche qui doit être privilégié. Mais la France insiste pour une répartition stable, prévisible et automatique des migrants, comme le réclame l'Italie. Car jusqu'à maintenant, les chefs d'État s'entretenaient à chaque fois au téléphone pour savoir quel pays accueillerait quel nombre de réfugiés. La France rappelle que depuis un an et demi, elle est le pays qui a accueilli le plus de migrants. Il faudrait qu'un maximum d'États européens acceptent ce mécanisme de solidarité. Paris et Rome sont confiants, mais Giuseppe Conte met tout de même dans la balance des sanctions financières pour ceux qui ne joueraient pas le jeu. Giuseppe Conte, qui demandera aussi à Emmanuel Macron d'accueillir davantage de migrants économiques et pas seulement les demandeurs d'asile. Sur ce point, Paris botte en touche et plaide surtout pour accélérer les procédures de retour dans leur pays des migrants économiques.
Quand un rapport potentiellement explosif vient relancer en France l'idée d'une taxe carbone dont la hausse l'an dernier avait été, rappelons-le, l'un des détonateurs de la crise des gilets jaunes, jusqu'à ce que sous la pression, le gouvernement ne décide finalement de suspendre puis d'annuler la hausse prévue pour 2019. Toujours est-il que le Conseil des prélèvements obligatoires, organisme rattaché à la Cour des comptes, a donc proposé ce matin une taxe carbone, nouvelle version, en somme avec des préconisations pour le moins radical, d'autant que ça n'est pas véritablement la trajectoire qu'avait imaginé le gouvernement. Annabelle Grelier, bonjour.
Bonjour Thomas.
Alors, pour ne pas déclencher un nouveau soulèvement populaire, il semble que l'exécutif avait lui plutôt choisi de temporiser, par exemple en gelant la hausse de la taxe carbone jusqu'en 2020, ce que confirme d'ailleurs encore aujourd'hui Gérald Darmanin dans Le Parisien. Or, dans son rapport rendu ce matin, la Cour des comptes, Annabelle, n'a pas l'air du même avis.
Oui, alors pas sûr en effet que cette option de temporiser soit celle de Bruxelles et pas même non plus celle de la Cour des comptes. Bien au contraire, dans son rapport, le Conseil des prélèvements obligatoires, l'organisme rattaché à la Cour des comptes, enfonce le clou sur la taxe carbone. Selon le CPO, il faut aller plus loin. D'une part, reprendre la hausse de la taxe carbone et d'autre part, élargir cette taxe à l'ensemble des consommations fossiles. Alors en ce qui concerne les particuliers, qui pourraient voir augmenter le prix de l'essence à la pompe ou la facture du chauffage, le Conseil des prélèvements obligatoires préconise toutefois un dispositif ou un mécanisme qui protégerait en quelque sorte les ménages les plus modestes, bref, d'y aller en douceur pour leur laisser le temps d'adapter leur comportement de consommation. Du côté des professionnels, le CPO n'y va pas par quatre chemins. Exit les exonérations, les remboursements ou les taux réduits sur la taxe carbone. Les transports aériens et maritimes sont bel et bien visés. Ce pourrait être la fin de leur exonération de TVA sur le carburant, mais aussi les transporteurs routiers avec les taux réduits qui s'appliquent à la profession. Une fin progressive. Quoi qu'il en soit, la mesure fera grincer des dents. La Fédération nationale de l'aviation marchande, la FNAM, a déjà mesuré ce que lui coûterait la perte de son avantage fiscal sur le kérosène, 350 millions d'euros par an, et d'avertir que cela entraînerait des suppressions d'emplois, 3 à 4 000 suppressions de postes dans l'aérien, selon son calcul. Enfin, dernière préconisation du CPO pour faire accepter la taxe carbone aux Français, il faut plus de clarté. Cette taxe, dit-il, doit être dissociée des impôts, dissociée des caisses de l'État, dirait-on vulgairement. Bref, dire où va cet argent et comment il servira à lutter contre le réchauffement climatique.
Merci Annabelle Grelier. EDF a annoncé ce matin que 6 réacteurs nucléaires en exploitation étaient concernés par les problèmes de fabrication de certains composants découverts la semaine dernière. En revanche, le groupe s'est aussitôt empressé de préciser que les écarts constatés ne remettaient pas en cause l'aptitude au service des matériels. En clair, qu'il n'y avait pas de problème structurel avec ces équipements et donc qu'il n'était pas nécessaire de fermer ces réacteurs nucléaires. Hakim Kasmi, bonjour.
Bonjour Thomas.
Alors sur tous ces problèmes, l'autorité de sûreté nucléaire a annoncé ce matin qu'elle se prononcerait définitivement dans quelques semaines. En attendant, Hakim, a-t-on des raisons d'être inquiet ?
Oui, si EDF qui exploite les réacteurs nucléaires se veut rassurant, en expliquant que les écarts constatés ne remettent pas en cause la mise en service des matériaux et ne nécessitent pas de traitement immédiat, cela pose tout de même des questions. D'autant que les pièces incriminées concernent aussi le futur EPR de Flamanville, qui a déjà cumulé plusieurs années de retard. Concrètement, l'électricien rappelle que les pièces défectueuses ne viennent pas de chez lui, mais de sa nouvelle filiale Framatome, le nouveau nom d'Areva, qui n'a pas respecté les procédures sur certaines opérations de soudure de générateurs à vapeur. Ces générateurs, qui sont des pièces très importantes, concernent 6 réacteurs, dont le numéro 2 de Fessenheim, la plus vieille centrale de France, et dont la fermeture a déjà été reportée plusieurs fois. Sur ces réacteurs, l'ASN, l'autorité de sûreté nucléaire que nous avons contactée ce matin, va demander des explications à EDF et va ainsi procéder à des inspections, notamment sur le site Framatome de Saint-Marcel, en Bourgogne, ainsi que sur l'un des réacteurs de la centrale nucléaire de Paluel, en Normandie. L'ASN doit se prononcer dans plusieurs semaines définitivement. Rappelons qu'en France, 75% de notre électricité provient du nucléaire, ce qui fait d'elle l'un des plus gros exploitants de l'atome dans le monde pour la production d'électricité avec les États-Unis et la Chine.
Merci Hakim Kasmi. L'information a été révélée en début de semaine par nos confrères du journal Le Monde. 4 des 15 usines du groupe Michelin en France seraient aujourd'hui sur la sellette. Et en l'occurrence, celle emblématique de La Roche-sur-Yon est sans doute la plus menacée de toutes, de sorte que pour les 600 salariés du site, bien ça peut le dire que l'inquiétude se lit désormais tous les jours sur les visages, comme a pu le constater Marc Bertrand de France Bleu Loire-Océan.
Les ouvriers sortent par le tourniquet, salopette Michelin sur le dos. La fermeture...
Tout le monde en parle, depuis des mois déjà.
Sur les visages, ce qu'on lit...
C'est de l'inquiétude, on ne connaît pas l'avenir de l'usine en fait.
On nous dit rien, dit Yannick, mais les salariés le voient bien.
On produit moins en fait, parce qu'on nous demande moins. Mais le boulot, on l'a toujours fait, depuis 2 ans, on fait même plus qu'on doit faire. Et on ne sait pas où on va.
L'usine voit ses commandes diminuer depuis des mois. Elle va sortir 680 000 pneus cette année, presque 100 000 de moins que l'an dernier.
Bah Michelin perd de plus en plus de parts de marché sur le secteur de poids lourds, suite à des augmentations de prix. Du coup, mécaniquement, il perd des parts de marché, donc il y a moins de volume. Et tous les mois, ça baisse. Donc une usine qui n'a plus de volume, forcément, elle se met en danger.
Le directeur de l'usine, Olivier Furnon, parle plutôt de la concurrence des pneus low-cost venus d'Asie, mais il le reconnaît.
On est sur la sellette, comme on dit. Les gens aimeraient qu'on puisse leur garantir leur emploi de façon sûre. Et c'est ce qu'on ne peut pas faire aujourd'hui, parce qu'il y a des incertitudes qui pèsent sur la charge de l'usine, et donc forcément sur le niveau d'emploi.
La direction a déjà imposé des jours de congé. Elle a prêté 35 salariés à d'autres usines du groupe pour ralentir la production. Pour l'instant, elle ne parle pas de fermer l'usine.
Parce qu'ils sont à la fois les victimes du réchauffement climatique, mais aussi une partie des solutions du réchauffement de la planète, les océans sont aujourd'hui l'objet de toutes les attentions. Et en particulier avec cette question, comment mieux les protéger des activités humaines, notamment la haute mer, berceau de la vie, et qui ne bénéficie d'aucune protection car n'appartenant à personne. Alors des négociations sont en cours justement aux Nations Unies pour élaborer un traité international de protection des océans, un outil si possible juridiquement contraignant. Des négociations censées aboutir l'an prochain. Le Chili, qui accueillera lui la COP25 sur le climat, ce sera en décembre, a choisi de mettre les océans justement au cœur des discussions. Et puis, autre actualité, dès la semaine prochaine, cette fois-ci, le GIEC rendra lui public un rapport spécifique sur les océans face au réchauffement climatique. Véronique Robérotte, bonjour.
Bonjour.
Cette attention portée aux océans et en particulier à leur santé, donc, elle est finalement assez récente, Véronique.
Oui, car l'état des océans s'est dégradé rapidement sous l'effet d'impacts de menaces multiples et cumulées ces dernières années. Si bien, nous explique Bruno David, c'est le président du Muséum d'Histoire Naturelle de Paris, que l'état de ces océans n'était même pas un problème il y a encore quelques années.
L'océan, d'abord, c'est un volume absolument gigantesque. Moi, j'ai l'habitude de dire que c'est 96% du volume offert à la vie sur Terre, parce que c'est un volume, c'est pas simplement une surface, comme les continents. Les océans, on se rend compte de leur finitude, maintenant, avec les problèmes de pollution par les plastiques, de surpêche. Et il y a une quarantaine d'années, on s'en rendait pas compte. Dans son livre vraiment prémonitoire, Avant que nature meure, Jean Dorst, qui a été professeur au muséum, c'est un livre qui est sorti en 1965, le chapitre sur les océans, il dit il n'y a pas de problème avec les océans. On est en 65. Et 60 ans plus tard, on se rend compte qu'il y a d'énormes problèmes sur les océans, simplement parce que la Terre est une planète finie et qu'on est très nombreux sur la planète.
Alors les impacts des activités humaines donc sur les océans se multiplient à la vitesse grand V, la pollution plastique, la surpêche, mais aussi les extractions d'énergie fossile, l'urbanisation des côtes et beaucoup d'autres encore qu'on identifie à peine, Véronique.
Oui, les scientifiques ne sont pas au bout de leur surprise dans leur étude de la haute mer, dont on pensait il y a encore peu de temps que c'était un désert en matière de biodiversité. Or, les océans sont à la fois une solution, vous l'avez dit, contre le réchauffement climatique, ils stockent un tiers des émissions de gaz à effet de serre, mais aussi les victimes, les premières victimes de ce réchauffement. Réchauffement qui les désoxygène, par exemple. Écoutez, Françoise Gaille, elle est spécialiste des grands fonds marins.
Il y a une perte d'oxygène de l'eau de mer qui peut entraîner là une anoxie locale, disparition de l'oxygène, qui fait que si vous avez une bande de poissons qui passe par cette zone-là, ils meurent instantanément. Et c'est vrai qu'on a, surtout dans le Pacifique, en Californie par exemple, des vagues de temps en temps, comme ça, de morts subites de populations de poissons ou d'autres crustacés, dues à cette anoxie. Mais là, ce qu'on constate, et on pense que c'est lié au changement climatique, c'est une augmentation du nombre de zones concernées et un accroissement de la surface de ces zones. Donc ça, c'est aussi un grand problème. Avoir un océan en bonne santé, c'est un climat préservé. Donc ça, c'est vraiment... c'est la première des choses. Il faut savoir que si vous suivez une goutte d'eau de mer, en suivant le parcours des courants de l'océan, puisqu'il y a une circulation thermohaline qui fait tout le tour de la Terre, eh bien, il faut 1000 ans pour arriver à retrouver le même point. Ça veut dire que la temporalité de l'océan est totalement différente de la nôtre. C'est du temps long, c'est vraiment une infinité de générations. Et donc, là, une des questions qu'on se pose en ce moment, c'est cette circulation thermohaline fait que il y a un recyclage de l'ensemble des éléments qu'il y a sur Terre. C'est comme si vous aviez une lessiveuse et tout revient à un compteur zéro presque, et lessiver, laver. Et ça fait partie aussi de la fonctionnalité de l'océan. Eh bien, on se pose la question jusqu'à quand est-ce que cette capacité va durer. À cause justement du changement climatique éventuel, il se peut très bien qu'à un moment donné, les courants diminuent et que la vitesse à laquelle les choses vont aller vont ralentir. Et ça, c'est une vraie question aujourd'hui.
Et puis l'autre question évidemment, c'est bien celle de savoir comment protéger ces océans et notamment, Véronique, la haute mer qui, elle, n'appartient à personne.
Oui, pas de gouvernance pour ce qu'on appelle la haute mer, rien pour protéger la biodiversité marine. Dans ces vastes zones océaniques situées au-delà des juridictions nationales, les Nations Unies planchent sur un statut international de protection et notamment la mise en place d'aires de réserve marine sur au moins 30% de la surface des océans. Julien Rochette est le directeur du programme Océan de l'Institut de Développement Durable et des Relations Internationales.
Concrètement, une aire marine protégée, c'est un espace qui a un régime de protection renforcé supérieur à ce qui l'environne. C'est-à-dire qu'on considère que l'espace est particulièrement sensible et qu'il faut lui apporter une protection. Protection, qu'est-ce que ça veut dire ? Apporter une protection, ça veut dire évidemment limiter tout ou partie des activités humaines. Ça peut être limiter le transport maritime, ça peut être éviter cette zone... des mesures d'évitement par les navires, ça peut être aussi de fermer des zones de pêche, réguler la recherche scientifique, etc. L'objectif étant d'avoir une conservation un peu plus importante sur telle ou telle partie de l'espace marin. Alors aujourd'hui, en fait, on a effectivement un problème parce qu'on n'a pas de mécanisme qui nous permette de créer ces aires marines protégées. Par contre, on n'a pas de problème pour recenser où la biodiversité vulnérable est localisée. On a plein d'exercices scientifiques qui ont montré que, par exemple, on a le café des requins blancs dans l'Est Pacifique. On a plein de zones, le café des requins blancs, un endroit où les requins blancs se migrent et se retrouvent de manière saisonnière. Il y a plein de hotspots de la biodiversité marine qui ont été recensés, qui sont particulièrement bien évalués. Donc aujourd'hui, le problème n'est pas tant la connaissance scientifique de la biodiversité en haute mer, parce qu'on sait où protéger les choses. Ce qui nous manque, c'est un mécanisme juridique qui le permette.
Et d'ailleurs, on parle même aujourd'hui, Véronique, de la création d'une organisation mondiale des océans.
une OMO hein, sur le modèle de l'Organisation mondiale du commerce, pas la peine. Alors réagit l'association Bloom, elle est connue, cette association, pour avoir récemment fait interdire la pêche électrique en Europe. Il suffit d'avoir un peu de volonté politique et d'appliquer tout simplement les lois existantes. C'est ce que dit Frédéric Lemanac de l'ONG Bloom.
En ce moment même, au niveau européen, les ministres de la pêche qui sont réunis au sein du Conseil de l'Union européenne se positionnent pour réintroduire des subventions qui vont permettre de construire des nouveaux bateaux toujours plus efficaces. Et ces subventions-là ont été interdites au niveau européen en 2004. Donc, c'est-à-dire qu'on est en train de faire un bond en arrière de 15 ans, et ça c'est inacceptable. Et donc on voit bien qu'on a vraiment un fossé mais gigantesque entre des objectifs qui font rêver tout le monde au niveau international et les politiques qui sont mises en œuvre au niveau national. Pour en revenir au secteur de la pêche, actuellement, il y a très très peu de contrôle sur les bateaux. En fait, il suffit simplement de mettre en œuvre ce qui existe déjà. On a les solutions, il faut simplement qu'on s'assure que les textes soient retranscrits dans les lois et ensuite que les lois soient appliquées. Donc, créer un nouvel organisme au niveau international pour rajouter une couche, je ne sais pas si ça serait efficace. En tout cas, du contrôle, ça c'est certain que ça serait efficace. Il y a des exemples au niveau mondial qui montre que quand on s'assure qu'on ne surpêche pas et qu'on ne dégrade pas les habitats, les choses vont rapidement mieux. Ça a été le cas du thon rouge en Méditerranée, qui a été très très surpêché dans les années 90 et 2000. Et à partir du moment où on a mis en place des mesures contraignantes de gestion des pêches et où on s'est assuré que ces mesures-là étaient respectées, la population de thon rouge en Méditerranée a rebondi de manière spectaculaire. Et donc ça, c'est vraiment le fruit d'un plan de gestion qui a été mis en œuvre et qui a été contrôlé.
Voilà, quoi qu'il en soit, la création quand même d'une OMO, Organisation mondiale des océans, est bien d'actualité aux Nations Unies.
Merci Véronique Robérotte, et je précise que vous pouvez retrouver tous les détails sur la haute mer sur le site de France Culture, franceculture.fr. On termine avec un mot rapide du temps pour cet après-midi. Du soleil un peu partout, même si des nuages pourront se développer encore sur les Pyrénées, le sud des Cévennes. Les températures, elles afficheront entre 18 et 32 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par Nicolas Pommet. À 18h, vous avez rendez-vous avec Aurélie Kiefer pour le prochain journal de la rédaction. Action.